Très bien. Je crois qu'on peut commencer. Comment organiser l'après-midi? L'idée est d'avoir le temps de débattre entre nous et de se confronter. Donc, je propose aux quatre relateurs de tenir leur exposé dans un maximum de 20 minutes. Possible, merci. De façon telle d'avoir le temps aussi pour poser les questions qui sont restées dans la bouche après la relation de Madame Rigoni, qui est encore parmi nous et je la remercie encore une fois. Les présentations, je les ferai l'une après l'autre quand les relateurs prendront la parole. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Danilo, juste Danilo Fusina, qui accomplit un travail très intéressant à l'intérieur de l'administration régionale. À vous la parole.
Voilà, merci beaucoup. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'un projet spécifique. Ça marche ? Oui, ça marche. Un projet que nous avons mené à l'intérieur des guichets linguistiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ce sont les guichets linguistiques ? Les guichets linguistiques, c'est un service de l'assessorat de l'éducation et de la culture financé par une loi de l'État italien, donc la fameuse loi 482 de 1999, portant sauvegarde et diffusion des langues minoritaires historiques. À l'intérieur de ce projet a été institué donc le service du guichet, le guichet linguistique, qui est un service public, donc ouvert à tout le monde, à la disposition des administrations publiques aussi bien que des particuliers. Et disons, le service déploie son activité selon plusieurs lignes directrices. Il y a une activité de support linguistique, bien évidemment, tant bien à l'oral comme à l'écrit. Et il y a aussi, parmi les autres, une activité de promotion de la langue. Parmi les activités de promotion de la langue, nous avons la création d'un site, le site du guichet, que vous voyez derrière moi. Et à l'intérieur du site, un projet plus spécifique qui est le projet du glossaire, dont je vais brièvement vous parler aujourd'hui. Alors déjà, le site est un site trilingue, français, italien et franco-provençal. À l'intérieur, comme je vous disais, vous avez la section du glossaire. Alors en quoi consiste-t-il ce projet ? Il s'agit de créer et de mettre en réseau le premier glossaire de franco-provençal valdôtain. Alors, je parle toujours volontiers de ce projet parce que, c'est un projet important. Déjà, c'est le premier, comme je le disais, glossaire de franco-provençal en ligne. Il s'agit d'un glossaire trilingue, lui aussi, c'est-à-dire qu'il peut être consulté en partant de la langue choisie entre le français, l'italien et le franco-provençal, et que toutes les réponses sont données dans les trois langues. Il s'agit aussi d'un glossaire sonore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, évidemment, ça veut dire qu'à côté du mot présenté, il y a toujours aussi son enregistrement sonore. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous parce que ça permet un accès direct à la langue. Et ça nous permet de dépasser les contraintes et les limites inévitables de la graphie. Du point de vue de la structure, après je vous montrerai quelque chose de concret, hein, qu'est-ce que ça donne, mais je voulais seulement vous dire quelque chose du point de vue théorique sur le projet en soi. Alors, du point de vue de la structure, le glossaire se compose de deux sections. Une section que nous appelons texte en ligne, qui est évidemment une base de données qui se propose à terme de recueillir tous les textes qui ont été révisés ou édités par le guichet linguistique depuis sa création. Pour le moment, nous avons inséré quelques 300 textes, dont 84 complets d'enregistrements sonores. Et tous les enregistrements sonores ont été tirés à partir de la vive voix du témoin, c'est-à-dire de l'informateur, qui nous a fourni la version patoise, ce qui est particulièrement important pour nous parce que ça nous permet d'assurer la plus stricte correspondance entre l'oral et l'écrit. On verra quelque chose de cette section après, si on en a le temps. La première section du glossaire est le glossaire proprement dit. Donc une liste de mots, évidemment, où pour chaque mot est présenté son correspondant dans les autres deux langues prises en compte par le projet. Jusqu'à présent, j'ai parlé du glossaire du franco-provençal, mais il serait peut-être plus correct de parler des glossaires, parce que en réalité, à terme, le projet se propose de prendre en compte au moins une variante pour chacune des 71 communes valdôtaines franco-provençales. Donc vous voyez qu'il y a du pain sur la planche, quoi. Et c'est pour ça que la première question qu'on s'est posée avant de commencer le travail, c'est comment est-ce qu'on va se prendre pour faire ce travail? Alors la méthode classique était évidemment celle de choisir une variante, de s'y attacher, d'y travailler pendant 2 ou 3 ans en stricte collaboration avec nos informateurs pour présenter à la fin un glossaire relativement complet de cette variante et puis recommencer avec une deuxième et une troisième variante. Petit problème, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 71 variantes. Donc si vous multipliez 71 ne serait-ce que pour 2 années, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Et on a estimé qu'on n'avait pas tout ce temps à disposition. Aussi parce que nous remarquons qu'il y a un certain retour d'intérêt à l'égard du franco-provençal. C'est quelque chose de petit, de modeste, mais c'est quand même intéressant à notre avis parce que ça marque une inversion de tendance. Et nous estimons que nous avons le devoir en tant que service public de soutenir cette demande, si je peux dire ainsi, de franco-provençal en lui fournissant aujourd'hui, pas demain, tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse, pour que cette demande puisse se consolider et s'épanouir. Nous avons donc adopté une autre stratégie. Nous avons tout d'abord divisé le programme en 2 parties. Et dans la première phase, nous travaillons à ce que nous appelons un glossaire simplifié. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons réduit le nombre des termes traités, quelques 1800 lemmes choisis parmi les substantifs, les adjectifs et les verbes. Et en même temps, nous avons élargi l'échantillon des variantes prises en compte. Donc, dans la première partie de cette première phase, nous avons travaillé sur 8 variantes, ce qui permet entre autres à l'utilisateur, sinon de trouver sa variante à lui, au moins de pouvoir se confronter avec une variante relativement proche. Et en plus, ça rend beaucoup plus intéressant le glossaire parce que ça permet de faire des comparaisons directes entre une variante et l'autre. Nous avons aussi décidé de mettre en réseau les données au fur et à mesure qu'on les avait, tout en sachant qu'on allait présenter de cette façon un outil de travail forcément incomplet, je dirais même largement incomplet au début. On a donc essayé de rendre quand même le glossaire le plus performant possible, parce qu'il n'y a rien de pire, vous le savez mieux que moi, que de faire une recherche sur Internet et de ne rien trouver. Vous essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà. Puis vous laissez tomber, ce qui est pire, vous ne revenez jamais plus sur le site, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et donc, comment a-t-on choisi les mots? On a choisi les mots parmi ceux qu'on estime les plus recurrents dans le langage de tous les jours. Parce que ce sont ceux qui ont plus de chances d'être recherchés par l'utilisateur moyen. Et ça marche. Je vous assure que ça marche. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais en effet, les résultats sont bons. Oui, on a des statistiques. Alors, en ce qui concerne donc le taux de réussite des recherches, si tu veux, considérer que 1800 mots, ça fait à peu près 15% du total des lemmes d'une langue, en gros. Donc, on devrait s'y attendre à un taux d'échec à peu près de 85%, non? Alors que le taux d'échec, pour le moment, c'est environ 50%. Donc, ça veut dire que ça marche. Un mot sur deux cherché par un utilisateur moyen, je souligne, moyen, donc pas un technicien, a une réponse, ce qui est pas mal. Oui, oui, oui. Quelques milliers par mois. C'est bon, pour un site qui... Oui, oui, non, c'est très bon. C'est... Enfin, nous, on est satisfaits. Je parle du site, hein, pas du glossaire, mais du site. Et à l'intérieur du site, le glossaire est la troisième section la plus cliquée. Donc voilà. Je termine en disant que dans la deuxième phase, on ira creuser plus à fond dans la langue, évidemment, pour faire ressortir tous les mots restants. Les mots anciens, les mots qui se perdent, les mots techniques, etc., etc. On le fera à l'aide de fiches. On a des fiches grammaticales qu'on a déjà préparées. Quelques-unes ont déjà été remplies dans quelques variantes. On le fera à l'aide de fiches thématiques. Donc, des inventaires lexicaux, les animaux domestiques, le corps humain, les sentiments, l'imaginaire et le fantastique, etc., etc. Et on le fera aussi avec l'analyse des textes. Parce que, en analysant les textes, on peut retrouver les tournures et tout ce qui rend particulier et unique une variante. Bien. Allons voir en 5 minutes. Combien de temps j'ai encore? À peu près? Voilà. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Vous avez la possibilité d'accéder au site directement par le moteur de recherche ou bien de la section du glossaire. Bon, on passe au français, c'est peut-être plus pratique. Pas pour nous, je veux dire, mais pour ceux qui ne connaissent pas le franco-provençal. Ah, une précision. Moi, j'utilise le terme patois, mais pour nous, en Vallée d'Oste, patois est synonyme de langue franco-provençale. Donc, il n'y a aucune connotation négative, péjorative dans ça. Vous l'avez déjà dit. OK, c'est bien. Alors, mettons que je pars du glossaire et je veux chercher donc un mot. Mettons abeille. Déjà. Je vois qu'il y a un système de remplissage automatique, ce qui est particulièrement intéressant à mon sens quand il s'agit de faire une recherche à partir du mot en patois, parce qu'il se peut que vous avez entendu un mot, mais vous ne savez pas exactement comment ça s'écrit. Donc, si vous vous souvenez de la racine avec un peu de chance, vous avez la possibilité de le trouver. Bon, abeille. Voilà, donc j'ai la liste des variantes trouvées à Val-Grisange, à Intro, à Arna, à Charvinceau, Val-Tournanche, Montgevin et Brusson. Non seulement j'ai l'enregistrement sonore. Voilà. Ce qui me permet de faire une confrontation directe. Oui. On la reconnaît, hein. Bon. Et ainsi de suite. Maintenant, vous ne le voyez pas parce que je ne suis pas branché. Ça, c'est une version enregistrée sur disque dur. Mais autrement, ici, il y a une carte de la Vallée d'Oste, Google, tout simple, avec les points où les mots ont été attestés. En plus, les mots homographes, disons, donc écrits de la même façon, sont présentés de la même couleur. Donc, on se fait aussi une idée de... la distribution territoriale des lemmes. J'ai la possibilité d'entrer dans les fiches, voyons, donc avoir des informations plus détaillées. Déjà, il y a la possibilité d'avoir une photo. Pour le moment, on a laissé de côté parce qu'on avait d'autres priorités, mais à l'avenir, on aura aussi donc toutes les photos. C'est intéressant surtout pour les écoles, pour les enfants, ça rend plus attrayant le site et tout. Vous avez évidemment la traduction dans les autres deux langues. Vous avez toujours une petite phrase pour mieux insérer donc le mot dans son contexte. Et vous avez toujours encore l'enregistrement sonore de la phrase aussi.
Et c'est pour mieux penaveuil.
Voilà. Ça donne l'idée de la prosodie de la langue aussi. D'accord. En plus, vous avez donc l'indication de la commune et le nom de notre informateur que nous appelons le témoin. Donc, et pour nous c'est important. Alors là, on ne va pas écrire toutes les données personnelles de nos informateurs, mais nous évidemment on les a, parce que dans le cas de recherche plus pointue, du point de vue linguistique, il est important de savoir si le tel mot a été présenté, disons, d'une personne de 20 ans ou d'une personne de 90 ans, si elle a habité toujours en Vallée d'Ost ou pas, quel type de travail elle a fait et tout. Donc là, on a une traçabilité complète des mots.
À l'intégration dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, là, le témoin, justement, démontre par son nom de famille.
Voilà, c'est vrai, c'est un bel exemple de... Esposito Sommes est une très bonne patoisante, jeune en plus, mais de qualité. Voilà. Déjà, je vous fais un autre exemple et puis je termine, puisque je sais que le temps est compté. Mettons que je cherche le chat. Là, je triche un peu parce que je sais qu'est-ce que je vais trouver. Mettons que ça m'intéresse intro. Au hasard. Alors, non seulement j'ai ma fiche habituelle, mais j'ai aussi tous les textes qui sont présents dans la section texte en ligne où le mot chat est présent dans le patois d'intro. Donc, voilà, les deux sections sont intégrées. Je peux cliquer. Je peux donc lire le texte. Je peux lire le texte original qui a été fourni au témoin, ce qui n'est pas anodin, parce que ça dépend, donc le type de version est influencé de la langue proposée. Par exemple, j'ai la possibilité de voir et d'imprimer une fiche, ça mettons pour les écoles qui veulent faire un dossier avec les différentes fiches de la commune, là il y a toutes les informations. Donc la source déjà, si le texte a été publié, s'il est inédit, le collaborateur et qui a fait la transcription. Non seulement, mais je disais, pour une partie de ces textes, j'ai l'enregistrement sonore.
L'Otsa Galup. L'Iyinku, un homme que Vardo vient de Vatsa d'Anverne. Tu le dis, le porto piqué l'herbe à Fritz peut aller bien de la rive.
Voilà, juste pour vous montrer. Donc, vous voyez ce que ça fait, par exemple, pour une école. La possibilité pour des enseignants qui veulent montrer la variante locale de franco-provençal, même s'ils ne parlent pas, à la limite, eux, le franco-provençal, ils peuvent le faire avec un témoin de l'endroit. Et puis, ils peuvent y travailler dessus, bien sûr. Voilà, je termine en disant très brièvement que donc vous pouvez faire vos recherches en utilisant le moteur de recherche ou bien comme si vous consultiez des volumes traditionnels divisés par commune en ordre alphabétique. Mais pour revenir un moment sur le moteur de recherche, à part la recherche normale comme celle que je vous ai montrée, vous avez la possibilité d'effectuer des recherches un peu plus ciblées. Je vais dire. Donc déjà, vous pouvez sélectionner la langue. Vous pouvez faire une recherche par catégorie grammaticale. Mettons, par exemple, que je veuille chercher un mot épicène dans la commune Tiens de Gressan. D'accord? Voilà. Il n'y a que deux. C'est une catégorie très particulière quand même. Mais bon. Liqueur, qu'on peut dire dans le patois de Courmayeur, la liqueur ou le liqueur, donc masculin ou féminin. C'est une particularité donc des palais franco-provençaux. Je peux évidemment, donc je vous l'ai dit, sélectionner la commune et je peux aussi faire une recherche par inventaire lexical. Voilà, on a une trentaine de catégories avec une centaine, 110 pour la précision, sous-catégories. Donc je peux mener des recherches, je ne sais pas, voyons, compter, mesurer les couleurs à l'école. Ce sont des listes incomplètes pour le moment, comme je vous disais. Et simplement, chaque mot a été associé à des catégories lexicales. Donc, quand je fais la recherche par catégorie lexicale, tous les mots qui ont été associés sont présentés, même si pour le moment, les catégories ne sont pas complètes. Sauf une, qui est celle de la laiterie. Donc, voyons les animaux. À l'école, voilà, ça y est, au monde du rural, à la laiterie. Mettons que je sélectionne, non, français, n'importe, voilà. Qu'est-ce que, ah oui, épicène, évidemment, n'importe lequel. Voilà, bâte à beurre, brosse, sac la fontine, etc., etc., entonnoir, éprouvette, et voilà. Voilà, bon, enfin, c'est tout, je termine. Si jamais ça vous intéresse, si jetez l'œil, j'ai apporté des dépliants, donc là vous avez toutes les adresses comprises celles du site. Voilà, merci de votre attention.